pour l'honneur que me fait l'auteur de ce livre. C'est un honneur parce que écrire, c'est comme déclencher une guerre. Les gens ne le savent pas toujours, mais déjà le courage d'écrire dissuade beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui pensent des choses, mais à la fin, on a très peu d'auteurs dans la société. Ça veut dire que entre la conception et la matérialisation, il nécessite certaines ressources qui ne sont pas à la disposition de monsieur tout le monde. Les philosophes parleraient du commun des mortels. Donc aujourd'hui, nous sommes rassemblés, non pas pour parler du football, c'est notre sport national, on n'a rien contre, non pas pour parler de politique, mais pour parler des idées. C'est assez rare dans notre environnement et avoir un tel public est assez, je l'ai dit tout à l'heure, assez rare pour ne pas être relevé et salué. Donc cela dit, je vais entrer dans le vif du sujet. Il est question pour moi de faire la note de lecture du livre. L'exercice, je vais le structurer autour de deux grands axes. Je vais faire une présentation du livre et tout le monde comprendra. Ce sont les coutumes de ce monde-là. Il y a une partie critique et la partie critique, elle fait partie justement de l'exercice qui est le mien. Le livre, il s'intitule Les paradoxes du monde postmoderne, de l'illusion de la vérité à la vérité de l'illusion. Certainement savant à partir du titre, certains peuvent se demander est-ce que ce qui va être dit ne sera pas assez rebarbatif pour qu'il retienne quelque chose. Il se trouve que ce titre, il est très universitaire, mais le contenu est assez usuel. Il parle des questions, il aborde les questions que nous posons chacun tous les jours, ou même des problèmes qui se posent dans notre société et nous n'avons pas forcément les outils nécessaires pour les percevoir, les conceptualiser et puis les partager avec les autres. L'auteur, on ne le présente plus, c'est plus à moi de le présenter parce qu'il est dans sa communauté. Dimitri Tefouroukeux, moi je le connais comme Geoffard Vincent de Paul parce que en plus d'être celui sur qui son choix a porté pour la préface de son livre, nous avons cheminé ensemble à l'université de Caen pendant au moins 3 années. Donc nos licences en philosophie ont le même âge. Le livre comporte deux parties relativement bien charpentées parce que le nombre de chapitres donne une certaine cohérence, certes relative, mais cohérence parce que la première partie comporte 7 chapitres, la deuxième n'en comporte que 5, mais ce n'est pas le nombre de chapitres qui est important. Donc très rapidement, je vais vous parler du contenu. Le livre aborde 11 principaux paradoxes. L'auteur parle de quoi? De constat tout simple que chacun de nous se fait tous les jours. Mais chaque dimanche, que vous soyez en chemin pour faire votre sport ou que vous soyez en train d'aller à la réunion, vous rendez compte qu'il y a tellement de Camerounais qui vont à l'église qu'on se serait attendu à ce que la société soit très vertueuse. Si tant de personnes vont à l'église, certainement qu'ils devaient avoir tellement de bien dans la société. Mais l'auteur se rend compte que tant de personnes vont à l'église, mais malheureusement, à commencer même à l'intérieur de l'église, il y a des comportements qui s'écartent plutôt de ce qu'on aurait attendu d'un religieux ou de quelqu'un qui va à l'église. Si on va dans nos sociétés, l'auteur constate que l'échelle des valeurs sociales est renversée. En Afrique, on se serait attendu à ce que, au moins, le droit d'aîné soit respecté. Quand le grand frère arrive, le petit frère le reçoit avec toute la révérence. Mais que constatons-nous dans notre société? On constate que si le grand frère arrive et que le petit frère, plus riche que lui, n'est pas encore là, il va attendre longtemps sans se plaindre. Et le petit frère lui-même ne va pas se rendre compte qu'il est en train de fouler aux pieds des valeurs cardinales de la société. Lui, il va se substituer au grand frère et puis ça passe comme si tout allait de soi. Vous êtes bien d'accord avec moi que jusqu'ici, il y a problème. On peut étendre cette panoplie. Si nous prenons la politique, ce n'est pas l'objet de ce soir, mais puisque l'auteur en parle, on en parle aussi. Nous sommes tous à la quête de la démocratie. C'est un grand mot d'ordre. La démocratie est présentée comme l'horizon indépassable. Toutes les sociétés doivent tendre vers la démocratie. Mais seulement, lorsqu'on interroge son contenu, on se rend compte que la fameuse démocratie qui était censée être le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, est en quelque sorte une autre forme de dictature. La dictature de ceux qui ont les moyens financiers, ils s'imposent sur le plan politique et même s'ils n'ont pas d'idées à proposer au peuple, ils vont se retrouver à la tête, soit de nos collectivités territoriales décentralisées, soit au niveau plus élevé. On comprend très bien de quoi je suis en train de parler. Donc, voilà. Voilà autant de paradoxes qui ont suscité la curiosité de notre philosophe de ce soir. Le philosophe, ce n'est pas l'image qu'on a de lui dans la société, à savoir, comme le disaient certains, celui qui est en train de chercher l'homme en plein jour, avec une torche, il cherche l'homme. Le philosophe n'est pas celui qui regarde les étoiles au point de ne pas voir ce qui se passe sous ses pieds. Non, le philosophe, c'est tout simplement celui qui, face à une société, face à un groupe de personnes qui croient que tout va bien, le philosophe prend du recul, observe et attire l'attention. Contrairement à ce que nous pensons, à tel niveau, il y a matière à réflexion. Donc, notre philosophe a passé en revue toutes ces problématiques. Il les étend d'ailleurs à des sujets qui peuvent paraître anodins à l'art. Parce que en philosophie, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de sujet typiquement philosophique. Le philosophe aborde tous les sujets de la société tout simplement avec un angle philosophique. Notre philosophe s'est intéressé par exemple à l'art. Nous aimons bien la musique. Mais alors, c'est quoi l'art? Est-ce que l'art, c'est juste un ensemble de productions pour satisfaire la commande d'un agent du monde du showbiz qui a besoin des musiques qui peuvent aborder des sujets qu'on n'a pas un intérêt particulier à les aborder avec une telle légèreté dans la société? Notre philosophe rend compte que l'art qui au départ visait le beau est aujourd'hui dévoyé. L'art, c'est la recherche du beau. Alors, si on veut être un musicien, on doit pouvoir harmoniser des notes, si bien que, mises ensemble et mises en cadence, même si nous ne comprenons pas la langue dans laquelle on est en train de chanter, nous allons nous sentir entraînés. parce que c'est le beau. Face à une peinture comme celle que nous avons aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir fait des études d'esthétique pour apprécier la beauté du lieu. C'est ça l'art. Mais il se trouve qu'à côté de cet art qui est la recherche du beau, l'appât du gain est allé jusque là. On ne chante plus pour adoucir les mœurs, comme disaient les grands spécialistes de l'art, mais on chante pour satisfaire celui qui a financé la musique et il a son objectif. Il peut faire chanter tout et n'importe quoi. Nous aussi, on finit par danser sans plus nous poser la question de savoir c'est quoi l'art, c'est quoi la finalité de l'art. L'autre philosophe aborde des questions un peu plus subtiles comme le temps. Le temps, l'illusion du temps. Nous sommes dans une société qui, depuis le 18e siècle, avec la découverte des nouvelles technologies qui nous ont permis d'aller plus vite, on a découvert le moteur à vapeur. On ne va plus à pied, on peut déjà aller à 30 km à l'heure, on peut aller à 60 km à l'heure, et plus aujourd'hui à 120 km à l'heure. Eh bien, ça ne se limite plus aux appareils, aux instruments que nous produisons. Même dans notre propre vie, on a intégré la dimension vitesse. Et heureusement, nous ne sommes pas tombés dans ce paradoxe. La société aujourd'hui, mue par la vitesse, veut que on aille vite. Pourquoi attendre 30 minutes pour attendre le chef? Il faut aller vite. Pourquoi travailler pendant 5 ans, 10 ans avant de récolter les fruits? Mais il faut aller vite. On peut se lever le matin, on cherche un raccourci parce que lui il aborde la question des raccourcis dans son livre. Quand on parle de raccourci dans notre société, il ne s'agit pas seulement d'une voie détournée qui nous permet de passer par des ruelles et se retrouver de l'autre côté. Mais les raccourcis dans notre société qui vont dans la vitesse voudraient que mais lui veut être auteur, il veut être célèbre, au lieu de s'asseoir devant un ordinateur, lire des tonnes de livres pour enfin tirer la substantifique moelle et produire son propre livre. Soit il prend le raccourci du plagiat, il va sur internet, il trouve un livre qui a déjà été produit par un auteur X, il récupère le contenu, il change le titre et puis il plaque son nom. C'est ça un raccourci, par exemple, sur le plan intellectuel. Dans les affaires, le raccourci voudrait aussi que au lieu de faire ses pas, un enfant, il a fini son baccalauréat, il se rend compte que les gens ont pris 20 ans pour bâtir leur fortune, mais lui, il estime qu'en un mois, en un an, lui peut atteindre le niveau de l'autre. C'est ça, le paradoxe du temps. Et l'auteur constate là-dedans que finalement, contrairement à la toute-puissance que nous pouvons prétendre avoir sur le temps finit toujours par nous rappeler qu'il est le véritable maître. Parce que si on prend l'exemple de celui qui a plagié, il arrive souvent que des livres soient détectés comme étant le fruit du plagiat. Il arrive même que des thèses de doctorat soient annulées parce que c'est le fruit du plagiat. Là, c'est très intellectuel. Mais dans la vie courante, le raccourci, l'illusion du temps, ça paye cash. On croit accélérer le temps, obtenir ce qu'on devait avoir dans 10 ans, on veut l'obtenir en un an. Et parfois, avant un an, on a le résultat. Le résultat, c'est qu'on n'obtient même pas ce que les autres ont pu bâtir en 20 ans. Donc voilà autant de problématiques que l'auteur aborde dans le livre. Une cérémonie comme celle-ci, on ne la veut pas très académique. C'est pour ça que le cadre aussi n'est pas très académique. On l'a voulu à dessein. Ça doit aussi pouvoir être interactif, qu'on puisse échanger, parce qu'il y aura cette partie. Certainement, la présentation que je vais faire ne pourra pas entrer en profondeur pour permettre à tout le monde, d'abord, de pouvoir suivre chapitre après chapitre les différentes problématiques qui ont été abordées. Comme je l'ai dit, nous avons 12 chapitres dans le livre. On ne pourra pas aller en profondeur, mais l'auteur aura le temps de répondre à certaines préoccupations irrelatives. Donc, nous pouvons poursuivre dans nos différentes préoccupations abordées par notre auteur. Il parle, et je l'ai dit tout à l'heure, de la démocratie dictatoriale. À côté de ça, il aborde un sujet, c'est un peu très technique, il parle de l'illusion du rationalisme ou l'irrationalité de la raison postmoderne. Ça peut paraître très savant, mais c'est tout simplement pour dire que nous sommes dans une ère paradoxale qui voudrait que tout soit rationnel, tout soit logique dans la société, vu le nombre de personnes qui sont allées à l'école, vu les facilités qu'on a aujourd'hui pour accéder à un livre, parce que ça existe en millions d'exemplaires gratuits sur Internet. Donc on se serait attendu à ce que la vulgarisation de ce savoir induise un peuple plus cultivé, plus averti et donc plus logique, qui aborde de façon plus rationnelle n'importe quel sujet dans la société. Alors, on se rend compte que, contre toute attente, on a une société plus fanatisée qu'il y a deux siècles. On n'était pas là pour voir ce qu'était la société il y a deux siècles, mais au moins, on a quand même des éléments qui nous permettent d'apprécier. Les historiens relatent le temps qu'ils vivent. Les coupures de presse sont là pour fixer le temps, pour immortaliser le temps, pour nous permettre de savoir ce qui se passait il y a un siècle, il y a deux siècles. Mais on se rend compte que, d'abord, on a une société où on produit de façon qualitative de moins en moins. On peut multiplier le nombre de thèses de doctorat qu'on soutient dans les universités, le nombre de mémoires défendues, le nombre de livres. Mais on se rend compte que, au regard des facilités que nous avons aujourd'hui pour accéder aux connaissances, on devrait faire au moins 10 fois plus que ce que les gens ont fait il y a un siècle. Pour faire un travail comme celui-ci, il y a un siècle, nous imaginons qu'il fallait, pour accéder à un livre, ce n'était pas donné. D'abord parce que pour produire un livre, les imprimeries relevaient encore du luxe. Pour que ces livres circulent, il n'y avait d'abord pas Internet comme aujourd'hui. On n'avait pas les avions supersoniques, parce qu'il n'y avait pas DHL pour commander ce livre et que quelques jours après, on le reçoit à l'autre bout du monde. Donc on a tellement de facilité qu'on s'attend à ce que nous soyons dans un monde plus rationnel. Mais que constatons-nous? Moins de réflexion. Et chacun peut expérimenter autour de lui. On n'ira pas loin prendre un bon exemple. Chacun de nous ici est au moins dans un groupe WhatsApp. Qu'est-ce que vous constatez? Si quelqu'un soulève une préoccupation qui engage notre destin commun et que nous devons réfléchir ensemble pour trouver une solution, on n'exagère pas en disant qu'il n'y aura presque personne pour commenter. Mais si on aborde des questions qui relèvent de l'émotion, je veux parler par là du football, de la musique, du sensationnalisme. Alors, tout le monde aura son mot à dire. Tellement on est habitué à cela que ça, ce n'est même plus un problème. Mais pour le philosophe, c'est un problème. Quelle société sommes-nous en train de construire? Et quelle société allons-nous laisser à la postérité? Parce que c'est ça, l'intellectuel dans la société. L'intellectuel ne se préoccupe pas tant du présent. Auquel cas, il va se comporter comme monsieur tout le monde. Il sort le matin à 6 heures, il part se battre, il gagne plus ou moins beaucoup d'argent, il vit comme monsieur tout le monde et puis la société va en pâture. Il faut bien des gens qui sacrifient parfois leur propre être pour penser la société et le destin des intellectuels dans la société, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est que pendant que l'intellectuel fait ça, on le prend pour un rêveur. Et là, je suis gentil. Parce que vous savez qu'on les prend souvent pour des fous. Ah oui. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'aller chercher de l'argent comme tout le monde, il passe son temps à écrire des livres. Ça intéresse qui? Qui lit même encore aujourd'hui? Attends, tu me le dis. Oui. Il écrit le livre, il va vendre à qui? On a déjà vu qui a vendu des livres au point de devenir riche. Mais, comme le dit un célèbre auteur, Claude Chrétien, commentant l'apologie de Socrate, il dit que on aborde les philosophes avec deux sentiments qui s'entrechoquent. Il y a un mépris apparent. Il appelle ça le dédain ostensible. En public, on va dire que ah bon, les intellectuels, ils apportent quoi à la société? Claude Chrétien dit il y a un dédain ostensible, mais il y a une vénération secrète. Le même qui dit que les intellectuels apportent quoi à la société, quand il a fini de dire ça pour se faire voir, quand il baisse la tête, il reconnaît quand même qu'aucune société ne peut évoluer sans des intellectuels. La preuve, chacun de nous inscrit son enfant à l'école quand il a tel âge pour aller à l'école. Si les intellectuels n'avaient aucune place dans la société, je pense que les commerçants qui sont très riches ne devraient pas laisser que les enfants aillent perdre le temps sur les banques. Très rapidement, on leur donnerait 1 million, 2 millions, il y en a qui peuvent me donner 1 milliard. Puisque la connaissance de ses arrières, on lui donne directement 1 milliard et puis on est sûr qu'il va devenir, il va multiplier vite le milliard. Si tout le monde envoie son enfant à l'école, le riche comme le pauvre, c'est que derrière le mépris apparent, nous tous nous savons que le savoir est une arme fatale. Et les gens qui sont armés sur le plan de la connaissance devraient être consulté par les autres, parce que les intellectuels, ils pensent, ils sont même capables d'enseigner l'économie à ceux qui font l'économie. Mais on a beau jeu de leur dire, mais il connaît tant de choses, mais pourquoi lui-même il ne crée pas sa part? Mais il a tant d'idées, mais il n'a qu'à mettre ses idées en application pour devenir lui aussi riche. Ah, mais on a coutume de le dire. Ce qu'on ne dit pas aussi, et tous ceux qui ont les moyens financiers le savent. D'autres, c'est quand ils deviennent riches qu'ils comprennent l'importance de la connaissance et rentrent à l'école. Naturellement, ils ne vont plus aller prendre une inscription dans le collège de son quartier pour qu'on voit que le père là, qu'on croit tout riche, donc il a encore quelque chose à prendre, il a les moyens de se permettre un précepteur à la maison. Il peut aller se faire former dans d'autres cadres. Ça veut dire qu'on a constaté que les intellectuels ont leur place dans la société. On va plus loin. Nous sommes dans une société
hyper connectés. Nous utilisons les smartphones, on est dans l'innovation. Mais c'est quoi l'innovation? C'est tout simplement un savoir qu'on a mis en forme dans la technoscience. À la base de toute innovation, il y a une réflexion. Comment les gens en sont-ils venus à penser qu'on pourrait rester ici, pouvoir communiquer avec quelqu'un qui est à 6000 km, à 10000 km d'ici? Plus loin, en le voyant. Vous convenez avec moi que ce n'est pas l'argent qui a découvert ça. Ce n'est pas l'argent. Ce sont des connaissances. Pendant que ceux qui font ça dans les laboratoires le font, personne ne les voit. C'est des cadres fermés. Ils n'ont même pas besoin qu'on les voit. Et quand arrive l'heure de célébrer, lorsqu'on doit présenter le dernier iPhone, on présente l'iPhone. Mais derrière, personne de nous se demande, mais qui a travaillé au laboratoire pour qu'on en arrive là? C'est exactement la même chose que nous avons dans n'importe quel livre. Il se trouve tout simplement que les formes de présentation changent. Ce qu'il a mis en forme dans ce livre peut être mis en application sur le plan politique. On obtient des institutions politiques qui sont différentes de celles que nous voyons. Ça peut être mis en application dans la vie de tous les jours. Et puis, on obtient une société plus apaisée. C'est-à-dire quoi? Lui, il parle, par exemple, du paradoxe de la foi ou du paradoxe de l'amitié. Prenons un sujet qui est moins polémique. Il parle du paradoxe de l'amitié. Il constate que dans la société technologique, on a transféré jusqu'à nos émotions. L'auteur constate que au lieu que la technologie nous rapproche, on peut aujourd'hui passer des appels vidéo. On peut aujourd'hui, à peu de frais, passer un coup de fil à l'autre bout du monde. Mais est-ce que vous ne constatez pas, comme l'auteur, que plus cette technologie évolue, moins les hommes se rapprochent entre eux. Les hommes, malgré l'apparent rapprochement, sont de plus en plus distants les uns des autres. Et la connexion donne l'illusion que nous sommes proches les uns des autres. Et ce n'est qu'une illusion de rapprochement. Puisque, avant la technologie, on avait plus d'informations précises sur les gens, même quand ils n'étaient pas proches de nous. Pourquoi? Parce que les relations humaines étaient fondées sur ce que nous avons d'intrinsèque, sur l'humanité, ce que nous avons de commun. L'humanité, au-delà de ce qui peut nous différencier, c'est-à-dire la couleur de la veste que chacun a portée, ou de la vie que l'autre a portée, ou de la fortune des uns et des autres, ce que nous avons tous en commun, c'est que nous appartenons à l'humanité. On a beau être multimilliardaire, mais c'est pas pour autant qu'on aura 6 doigts. Si quelqu'un est multimilliardaire et il a 6 doigts, lui-même va aller consulter le médecin. Mais pourquoi j'ai un 6e doigt qui pousse? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Oui. Mais si on se rend compte que il y a quelque chose qui s'ajoute sur ce que nous avons de naturel, tout le monde va s'inquiéter. Et c'est donc cette invite, l'auteur nous invite à redevenir tout simplement ce que nous n'aurons jamais dû changer d'être, à savoir redevenir tout simplement des êtres humains. C'est quand même comme paradoxal, incompréhensible qu'on invite les humains à redevenir humains. Oui. Vous comprenez pourquoi notre philosophe ne pouvait pas se contenter d'observer la société comme monsieur tout le monde. Quand il attire ainsi notre attention, nous rendons compte, mais même si nous ne l'avions pas vu de nos propres yeux, on aurait dû percevoir cette anormalité qui est en train de s'enraciner dans notre société. Eh bien, il faut des hommes, il faut des philosophes, il faut des intellectuels comme lui pour percevoir cette réalité. Et les livres, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas juste faits pour se donner un nom. Et j'ai bien aimé la présentation, l'avant-propos de l'auteur. Il dit, et vous allez permettre que je le cite, « Ma préoccupation en réalisant cet ouvrage n'est ni de réaliser un chef-d'œuvre, ni de faire un étalage d'érudition, ni d'étaler aux yeux des lecteurs une connaissance philosophique, même un désir de me tailler une renommée, une célébrité, une popularité, ni plus de me mettre à l'abri du manque matériel, mais plutôt une volonté ardente de faire humblement connaître à mes lecteurs et surtout aux jeunes Africains, véritables destinataires de l'œuvre, les pièges, les contradictions, mieux, les paradoxes qui régissent et régulent l'existence post-moderne. » Je pense que ce passage est assez clair pour se passer de commentaires. Néanmoins, l'auteur dit qu'il n'a pas écrit ce livre pour montrer qu'il connaît plus que monsieur tout le monde, ni même pour devenir très célèbre. Il a juste voulu faire œuvre utile. Et son public est choisi. Les jeunes Africains. On pourrait se poser la question de savoir, mais la philosophie s'adresse à l'homme, indépendamment de la couleur de la peau ou du coin du monde qu'il a vu naître. Tout à l'heure, certainement, il va nous dire pourquoi il s'adresse particulièrement aux jeunes Africains. Mais je peux me risquer de dire que les jeunes, dans ce monde devenu, dit-on, un village planétaire, n'y vont pas à âme égale. Les jeunes Africains n'affrontent pas la mondialisation avec les mêmes armes que les jeunes Indiens, par exemple, que les jeunes Européens ou les jeunes Américains. Ils ont beau avoir le même âge, 18-20 ans, mais les autres naissent dans une société qui a déjà un minimum d'acquis technologique, d'acquis philosophique même, parce qu'ils sont dans une société qui a déjà des auteurs qui a donné leur vision, la vision du monde de cette partie du globe. Les jeunes Chinois, par exemple, dès l'école primaire, on leur apprend Confucius, on leur apprend Mao Zedong, on leur apprend les penseurs de leur environnement. Le jeune Européen, on lui apprend Molière, d'ailleurs, c'est sa langue, pour les Français. On leur apprend Cervantes, on leur apprend les Goethe, Shakespeare pour les Anglais. Au point ces enfants-là grandissent en ayant dans leur société leur propre modèle. Vous allez aux États-Unis, ils vont plus loin. Chaque jeune Américain qui naît porte en lui ce qu'ils appellent l'American Dream. Le rêve américain. Chaque jeune Américain veut réaliser le rêve américain. C'est pour ça que chaque jour, on peut partir de rien. Et puis, on entend parler de Bill Gates. Puis, il inspire les autres. On entend parler de Steve Jobs. Ainsi de suite. Ils ont, à la différence des jeunes Africains, posé la question aux jeunes Africains, qui veut devenir? Je pense que pour que cet exercice nous soit utile chacun à titre personnel, demain matin, amusons-nous, posons la question à chacun de nous, à ses enfants. tu veux ressentir qui est ton modèle. Samuel et tout. Hier c'était Drogba, l'autre c'était. Mais si c'est pas Samuel et tout, on va profiter au monde pour les anciens, Fali pour pas pour les nouveaux.
Petit pays.
Très bien.
Balthazar. Balthazar.
On le dit dans une certaine légèreté. Mais voilà le fondement du malheur de l'Afrique. C'est que nous n'avons pas de modèle. Et c'est pour ça que l'auteur, au lieu de s'adresser aux autres, il a préféré s'adresser à ceux que lui trouve être les nécessiteux du contenu de son livre. Parce que il y a plusieurs types de nécessiteux. Le nécessiteux dans notre société de l'avoir, lorsqu'on parle du nécessiteux, dans la compréhension collective, c'est celui qui n'a pas assez de moyens. C'est celui qui n'arrive pas à joindre les deux bourses. C'est lui le nécessiteux. Alors que le principal nécessiteux, c'est celui qui lui manque juste qu'à l'idée de ce qui lui manque. C'est-à-dire, il est tellement nécessité qu'il ne sait même pas réellement ce dont il a besoin. Voilà le vrai nécessité. Les jeunes Africains sont tellement nécessités qu'ils ne savent pas ce qu'il leur faut pour ne plus être nécessité. Sinon, comment un nécessité pense que son modèle peut être, on n'a rien contre nos stars. Mais comment lui peut penser que la solution à sa situation de nécessité soit ces gens-là? Vous convenez avec l'auteur que le problème est plus profond et ne se pose pas, ne doit pas se poser dans les mêmes termes qu'on le poserait en hors de l'Afrique. Chez eux, ce problème ne se pose pas. Ils savent ce qu'ils veulent devenir. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils deviennent généralement ce qu'ils veulent devenir. Pas parce qu'ils sont particulièrement plus intelligents que les jeunes Africains. Et nous pouvons vous dire, nous le savons d'ailleurs tous, que à âme égale, on a envie de dire que personne ne va en Afrique. La preuve, c'est que quand ils se retrouvent dans les. Quand les conditions sont réunies, et ne sont pas seulement réunies hors de l'Afrique, ben c'est aussi une autre partie que l'auteur doit pouvoir aborder. Les conditions ne sont pas seulement bien réunies dans n'importe dans un point précis du monde. Ces conditions peuvent être réunies n'importe où, à condition que nous reconnaissions d'abord que ça peut être réuni n'importe où. Voilà autant de problèmes. Je ne vais pas aller plus loin parce que l'auteur aura le temps d'apprécier, de préciser sa pensée sur ce point précis. Mais voilà la perception que je crois avoir de sa cible. Pourquoi les jeunes Africains? Et j'ai commencé par partager avec vous un passage du livre. L'auteur n'écrit pas pour devenir célèbre. Et peut-être c'est un paradoxe qu'il n'a pas prévu dans son livre. C'est que, vu le public que nous avons aujourd'hui, lui n'a pas certainement, dans son humilité, n'a pas besoin de tout cela, mais je peux lui dire que c'est déjà une grande marque de célébrité qu'on trouve tant de Camerounais se réunir, non pas pour venir regarder un match de football ou pour un meeting politique, mais pour parler des idées. Et son livre commence déjà à avoir un écho dans la société. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pense, il a même souvent été dit que les Africains ne lisent pas. Les Africains ne s'intéressent pas aux choses de l'esprit. Ils ne réfléchissent pas. Ils chantent et dansent. Peut-être parce que on n'a pas souvent réuni les conditions pour que les idées africaines s'expriment. Peut-être parce que Les autres l'ont dit à dessein. C'est un juste d'ailleurs qui le disait, qui disait que la meilleure façon de cacher quelque chose en africain, c'est de la mettre dans un livre.
Qu'est-ce qui vous arrive?
Rien n'est plus faux. Les Africains ne lisent pas. Ce n'est jamais vrai.
Tu crois que je suis un tongue?
Il se trouve que ceux qui tiennent ce discours ont intérêt à ce que nous autres Africains intégrions que nous ne lisons pas. Parce que si nous lisons, on va commencer à remettre en cause certaines choses, y compris leur hégémonie. Il est dans leur intérêt que nous ne lisions pas. Et comment ils organisent ça? Ils le disent, ils jettent ça comme une boutade, nous répétons à satiété, mais ils organisent ça dans l'industrie du savoir. D'abord, les livres, un livre produit au Cameroun, la moyenne de vente c'est 10 000 francs. Ce n'est pas tant le revenu de ces livres qui importe. Pour ceux qui organisent l'industrie internationale du livre, ils s'arrangent à mettre ça tellement cher que moins d'Africains vont accéder au savoir. Pourquoi? En amont, ils s'arrangent à ce que une minorité de personnes contrôle les maisons d'édition. 60% de maisons d'édition dans le monde sont des détenu par un peuple qui s'appelle les Juifs. Par exemple, ce n'est pas tant qu'ils aiment le savoir. C'est nous qui ne savons pas que pour contrôler le monde, il faut contrôler le savoir. Les gens se posent la question, mais pourquoi ces gens sont si puissants? On voit seulement les avions supersoniques. Non, ils vont plus loin. Ils contrôlent d'abord le monde à partir de la production scientifique. Ça veut dire que là-dedans, ils disséminent leur vision du monde. En plus, ils fixent des prix tellement élevés qu'ils vont limiter l'accès au savoir. Résultat des courses, on a très peu de personnes qui lisent. Et donc, pour dire à l'auteur que le public que nous avons aujourd'hui est une preuve de ce que il a fait une belle perception de la société et qu'on a besoin des gens qui saisissent ces réalités sociales, les mettent en forme, amènent les gens qui n'ont pas forcément les mêmes outils intellectuels pour les percevoir à voir cette chose qu'ils ne voient pas et finissent par interroger et remettre en cause. Non pas le monde au sens que les géographes le verraient. Parce que quand on voit le monde au sens de la géographie, il est tellement vaste que chacun va se dire, mais qu'est-ce que je peux bien? Mais le monde des philosophes, c'est le monde intérieur. Chacun porte en lui une partie du monde. Et pour rester dans le cadre des problématiques soulevées, si nous prenons un sujet qu'il aborde, un thème hautement philosophique, l'amitié. Si chacun, après avoir lu ce livre, réalise que mais finalement, contrairement à ce que je pensais, la technologie ne nous rapproche pas tant que ça. Et change la manière de se comporter déjà vis-à-vis de son proche. On aura impacté la société. J'aime bien un livre de Roland Comin qui s'intitule The Impact of One. Lui, il estime que vouloir changer la société globalement, d'abord c'est impossible, généralement aussi, c'est une fuite en avant. C'est une excuse que chacun de nous prend pour ne rien faire. Se dire vraiment, je suis seul, qu'est-ce que je peux bien faire? Alors que si chacun décide de changer la société à partir de sa propre portion du monde qu'il a en lui, par extension, la société finira par se métamorphoser, non plus de façon péjorative.